We Do Biz, premier sur les entrepreneurs.
Les entrepreneurs bougent, créent, partagent sur We Do Biz.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici Thomas Benzazon et j'ai le plaisir de vous retrouver une fois de plus pour votre émission en direct Entrepreneur le Live. L'actualité vue par les entrepreneurs, c'est donc tout de suite et aujourd'hui s'il est une actualité que nous ne pouvions pas manquer, c'est bien celle de l'élection présidentielle américaine. Car quand la première puissance mondiale élit son président, c'est la planète entière qui est concernée et les entrepreneurs français ne font pas exception. Nous avons donc intitulé cette émission Élection américaine, quels impacts pour les entrepreneurs. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent commenter, compléter et bien évidemment questionner nos invités sur Facebook et Twitter. Et pour aborder ce sujet, nous recevons sur le plateau deux hommes concernés de près par ces élections, Aurélien Côté et Stéphane Depau. Aurélien Côté avec un double diplôme, un diplôme en français, un diplôme américain, a lancé une entreprise avec son frère aux États-Unis, également fondateur de The Americans Club et président anciennement de The American University Club. Il est avec nous, bonjour.
Bonjour.
Stéphane Depau est quant à lui le fondateur de Plaisir d'aider, deuxième réseau français de services à la personne, qu'il a revendu en 2010, aujourd'hui dirigeant de l'entreprise Aromas of France. Il a obtenu un contrat d'exclusivité pour Durance pour 10 ans et pour les États-Unis. Vous êtes également co-auteur de l'ouvrage pratique L'essentiel d'un marché, États-Unis aux éditions Ubi France. Bonjour.
Bonjour.
Alors messieurs, avant de rentrer dans le vif du sujet, pensez-vous que l'entrepreneur français ne peut faire l'impasse de ce qui est en train de se passer outre-Atlantique ?
Disons qu'il y a à peu près trois types d'entrepreneurs pour moi. Je dirais qu'il y a l'entrepreneur qui a son marché en France et qui va rester en France et dont l'impact de ce qui va se passer aux États-Unis lui importera peu. Il y a celui qui effectivement va grandir à l'étranger et qui a déjà un marché, que ce soit en Europe, en Asie ou même aux États-Unis. Et puis il y a le français qui veut grandir aux États-Unis.
Et donc dans l'ordre, le premier est moins concerné.
Le deuxième concerné puisqu'il est en phase directement avec la compétition de produits, que ce soit américains ou chinois, mais très certainement américain vu l'euro-dollar. Et puis pour le français qui veut grandir aux États-Unis, il a effectivement un impact direct de ce qui va se passer.
Stéphane Depau.
Tout à fait, oui, non, c'est clair que le français qui veut vraiment s'exporter aux États-Unis va être de toute façon intéressé et voit ça de très très près, regarde vraiment ça de très très près pour pouvoir justement savoir quelles vont être les possibilités que l'un ou l'autre des candidats lui réserve pour la suite. Donc oui, non, c'est clair. Ce que dit Aurélien est tout à fait réel.
Et donc, il y a au moins une partie de nos auditeurs qui sont bien concernés par cette élection qui se joue en ce moment.
C'est clair.
Tout à fait.
Alors du coup, est-ce qu'on peut commencer par un premier bilan, quelques chiffres? Déjà, les relations commerciales France-États-Unis, justement, quelques chiffres, qu'est-ce que ça donne?
Au jour d'aujourd'hui, les relations commerciales entre la France et les États-Unis ont de toute façon été ralenties au vu de l'euro-dollar. C'est clair que les entreprises françaises exportent moins, en tout cas depuis 2010. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est clair que l'attente est très importante, puisqu'en plus la zone euro est extrêmement ralentie. Et donc on sait que ça a pesé lourdement sur les États-Unis. Donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que cette élection va relancer à première vue les exportations. Le gouvernement français d'ailleurs l'a encore annoncé aujourd'hui, le but est de pouvoir relancer l'investissement et les exportations et la compétitivité. Donc oui, c'est clair.
Donc c'est principalement l'euro-dollar, selon vous, qui explique que le déficit de notre balance commerciale avec les États-Unis atteignait, je crois, 5 milliards de dollars d'euros pardon, en 2011.
C'est clair.
C'est principalement ça.
C'est une des grandes causes, mais d'ailleurs tout le monde le sait.
C'est quoi ça? Ça marche pas le made in France aux États-Unis, la marque France dont
si,
on parle
dans
tant.
Le luxe, dans le luxe ou dans les produits, que ce soit le luxe vestimentaire ou dans le luxe alimentaire, oui effectivement ça marche. On exporte aussi très très bien nos ingénieurs. Il suffit d'aller voir à la Silicon Valley et on entend parler français à tous les coins de rue.
Ça c'est pas forcément une bonne chose d'exporter nos talents.
C'est pour ça justement que Google finalement s'est installé au niveau recherche et développement en France, parce que finalement ça leur coûte moins cher d'avoir des ingénieurs français performants et innovants en France que dans la Silicon Valley.
C'est clair.
Parce que je reviens sur ce déficit de la balance commerciale avec les États-Unis. Quand nos ventes progressaient de 5,4% en 2011 avec les États-Unis, celles de l'Allemagne, elle, atteignaient 12,3%. Comment on explique ce décalage, cet écart? C'est pas rien.
Non, c'est pas rien. Non, mais bon, on peut expliquer aussi cet écart. C'est le point de vue des Allemands. En fait, leur façon de penser est quand même très très proche des Américains. Et à l'inverse, ça se diffère vis-à-vis des Français. On se rend compte qu'un Allemand prend une décision, quand il prend la décision, il y va tout droit, c'est direct. Alors que le Français a besoin de réfléchir, d'analyser et va prendre son temps. Donc je pense que les Allemands sont vraiment en phase avec les Américains depuis longtemps, d'ailleurs très longtemps, et ça va continuer. Donc au niveau commercial et économique, ils s'entendent très très bien.
Alors pourtant, je vous laisse la parole dans deux secondes, Aurélien Côté. Ils ont quand même l'euro. On parlait de cette différence euro-dollar. Ça veut dire quoi, du coup?
Il y a quelque chose aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que les Allemands parlent très très bien anglais. C'est un avantage non négligeable pour pouvoir faire du business aux États-Unis. Après, il y a la deuxième chose, c'est que les Allemands sont mis dans une niche qui est le made in Germany, qui dure du luxe, que ça soit dans l'automobile, dans les machines industrielles, puisque il suffit d'aller en Chine, toutes les grandes machines allemandes sont vendues en Chine. Donc quelque part, c'est que les Allemands ont su s'exporter dans ce marché de niche qui leur permet justement de gagner énormément, puisque c'est là où il y a les plus grandes marges.
Donc plus compétitifs qu'en France, les entreprises allemandes.
C'est surtout que je rejoins Aurélien, ça fait vraiment longtemps qu'ils sont sur la niche du luxe. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne dans cette crise économique qui perdure? C'est où les premiers prix, donc les vraiment chinois, ou le luxe. Mais tout ce qu'il y a entre deux souffre énormément, donc ça c'est certain.
Donc le luxe industriel.
Oui.
Bon, avant de passer à nos deux hommes, Barack Obama, Mitt Romney, juste pour rester sur comment ça se passe aux États-Unis, quels sont les secteurs porteurs pour les entreprises françaises qui souhaitent s'exporter ou s'implanter là-bas?
Le luxe, évidemment, à travers les cosmétiques, la parfumerie.
Il y a d'autres choses?
Tout ce qui est art, on va dire les antiquités, les meubles, etc. Donc oui, là, il y a vraiment quelque chose à faire. Ça a toujours été, mais là, c'est vraiment très fort. Il y a vraiment une demande du luxe dans ces voies-là. Après, c'est clair que pour d'autres secteurs comme la restauration, là, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus fermé. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs français qui sont à la tête de, que ça soit de réseaux de franchise ou même d'entreprises indépendantes dans la restauration, qui souhaitent exporter leur concept aux États-Unis. Là, je pense qu'il faudrait mieux attendre.
Ça, c'est pour le côté business pratique avec les États-Unis. Au niveau politique, ça se passe bien entre Obama et la France depuis qu'il est à la Maison-Blanche?
Alors, je dirais que, pour ma part, il y a eu deux périodes. Il y a eu la période où Obama est arrivé au pouvoir et qui, finalement, c'est quelqu'un qui est très cérébral et qui est très terre-à-terre et qui, finalement, vous voyez plus devoir faire des efforts vis-à-vis des pays émergents type la Chine ou les relations avec la Russie ou avec l'Amérique latine, plutôt que d'essayer de continuer des liens qui sont déjà très forts avec l'Europe.
Donc, ce que vous êtes en train de nous dire, Aurélien Côté, c'est qu'on a un Obama qui a plutôt souhaité s'exporter vers de nouveaux horizons plutôt que d'essayer d'entretenir une relation déjà existante.
Exactement.
Donc ça changera pas s'il est à nouveau élu.
Alors, c'est ce que je disais, ça c'est la première partie de son mandat. Dans la deuxième partie, où effectivement il a été mis un peu à défaut, il a dû chercher un allié, et l'allié de toujours, c'est quand même l'Europe. Donc effectivement, les liens, on peut le sentir depuis 2 ans, sont beaucoup plus forts au niveau politique. Et puis il faut voir aussi quelque chose, c'est qu'on a eu un président qui est Nicolas Sarkozy, qui était quand même très pro-américain. Ça facilite énormément les entrées sur notre sol et les relations qu'il pouvait y avoir, puisque la porte était plus que grande ouverte avec Nicolas Sarkozy.
Ça se passe comment avec Hollande aujourd'hui?
Ça se passe diplomatiquement, ça se passe bien.
Effectivement,
ça se passe bien diplomatiquement. On se rend compte que même au niveau militaire, les choses n'ont jamais été aussi bonnes entre la France et les États-Unis. Après, on se rend bien compte que donc Barack Obama, jusqu'au jour d'aujourd'hui, malgré tout se méfie de François Hollande, François Hollande penche très très fort vers la gauche, alors que Barack Obama est quand même très dirigé vers la droite.
On dit que Barack Obama, en tout cas ses détracteurs, est un socialiste. Il devrait
socialiste
trouver.
Socialiste à l'américaine.
Voilà, socialiste à l'américaine.
Donc c'est pas la même chose.
On penche sur le, on va dire, on est entre le centriste et la droite souple. Et c'est clair que dans tout ce qu'il fait au jour d'aujourd'hui et tout ce qu'il souhaite continuer à faire, il est dans cette direction-là. D'ailleurs, il s'entendait très bien avec Nicolas Sarkozy pour ces faits-là et ces points économiques, puisqu'ils ont été tous les deux dans la même direction. Et je pense que d'ailleurs, comme il je ne sais pas si vous avez vu, mais il plaisantait dernièrement, aujourd'hui à la télé, sur ses cheveux gris. Il disait, lors de son dernier débat, « Vous avez vu mes cheveux gris, ça vous montre ce que j'ai pu travailler depuis quelques années pour mon pays et pour le monde entier aussi. Voilà. Donc les gens en rigolaient, mais c'est une réalité. Nicolas Sarkozy, ça fait aussi beaucoup de cheveux gris. On s'en est rendu.
Bon, alors revenons sur les deux candidats qui nous réunissent aujourd'hui. Je vous propose de vous lire quelques citations et charge à vous de deviner qui de Barack Obama ou Mitt Romney en est l'auteur. Alors je cite, « Se contenter de faire de l'argent pour faire de l'argent montre un certain manque d'ambition. » Obama, Mitt Romney.
On dirait du Obama.
Oui, j'allais dire aussi la même chose.
Vous votez tous les deux pour Obama, en tout cas pour cette question. C'est ça, contrairement à ce que racontent quelques-uns de mes plus fervents critiques, je suis et resterai un ardent défenseur de l'économie de marché.
Moi, j'irais plus sur Romney.
Moi, j'irais Obama.
Eh bien, c'est vous Aurélien Côté, c'est bien Obama, donc c'est vous qui avez raison. Je continue, en Amérique, on célèbre le succès, on ne s'excuse pas.
Ça c'est Romney.
Oui,
exact.
C'est assez clair.
La libre entreprise a plus fait pour sortir les gens de la pauvreté, à construire une forte classe moyenne, à éduquer nos enfants et améliorer nos vies que n'importe quel programme gouvernementaux combiné.
C'est un des deux qui a dit ça ?
Un des deux.
C'est impressionnant.
On dirait Romney.
Oui,
c'est effectivement ça. La main visible du marché bouge toujours plus vite que la main lourde du gouvernement.
Ah, ça, c'est Obama. Obama.
Et non, c'est Mitt Romney. allez, une dernière pour la route. God bless America.
Ça peut être qu'Obama.
Ça paraît, oui.
C'est Obama, c'est le président. Ces éléments nous donnent donc quelques clés de lecture sur la vision de l'un et de l'autre. Plus précisément, concernant Barack Obama, quelle est sa relation à l'entreprise, aux entrepreneurs ? Parce que lui-même n'est pas entrepreneur, contrairement à Mitt Romney.
Non, effectivement, Barack Obama, c'est un vrai politicien qui a fait de la politique depuis toujours. Et avant d'être président, il était sénateur. Donc, contrairement à Romney, qui a été, on le sait tous, président fondateur de Bain, et qui a été aussi gouverneur du Massachusetts de 2000 à 2007, si je me souviens bien. Donc, effectivement, ce sont deux caractères différents. Alors, Obama, je pense qu'il a touché de plus près au niveau de l'entrepreneuriat et de l'industrie depuis qu'il est président. Effectivement, il s'est renseigné, et comme c'est quelqu'un, comme je le disais tout à l'heure, qui est très cérébral, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup renseigné auprès de gens, donc il a vu des gens, il s'est déplacé jusqu'à la Silicon Valley, il a fait des dîners avec des gens comme Mark Zuckerberg ou Steve Jobs pour bien comprendre et appréhender ce qu'est une start-up et le futur de la Silicon Valley et de ce domaine-là pour les Américains.
Donc si je résume bien, avant d'entrer à la Maison Blanche, il avait peu de connaissances du monde entrepreneurial et finalement, c'est différemment.
Voilà. Oui, il avait quand même des connaissances. Je veux dire, il est quand même de formation avocat et puis il a quand même, je pense, fait pas mal, un beau parcours politique pour comprendre ce qu'était quand même l'entrepreneuriat dans ses différents postes.
Est-ce que vous diriez qu'il aime les entrepreneurs ?
C'est une bonne question. Je dirais, de toute façon, Obama, c'est quelqu'un qui aime les gens. Par définition, donc oui, les entrepreneurs, puisqu'un entrepreneur va créer de la valeur et un entrepreneur, quelque part, il crée une famille autour de lui. Donc je pense que oui, il aime les entrepreneurs.
C'est clair.
Vous citiez que Mark Zuckerberg, Steve Jobs, qui l'a pu rencontrer, on lui connaît des affinités particulières avec tel ou tel dirigeant d'entreprise ?
Je dirais pas qu'il y a des affinités, je dirais qu'il a... c'est quelqu'un qui aime savoir et comprendre. Donc il va aller revoir des gens plusieurs fois ou les interroger pour mieux comprendre, pour mieux appréhender. Il est très dur de savoir quels sont effectivement ses amis industriels et entrepreneurs par rapport au fait de ses relations purement de vouloir connaître.
Il aime s'entourer, c'est certain. C'est quelqu'un qui aime vraiment comprendre et s'entourer dans le monde des affaires. Et c'est ce qui est bien. Nicolas Sarkozy, il faisait la même chose.
Alors, je vous propose de passer à l'autre candidat, le républicain Mitt Romney. Donc lui, vous le disiez, a été entrepreneur avec Bain Capital. Cela le rend-il plus proche du monde des chefs d'entreprise, selon vous ?
Tout dépend de quel type de chef d'entreprise on parle.
C'est-à-dire Aurélien Côté ?
Allez, Stéphane.
C'est clair qu'il va être très proche des grosses entreprises, des grosses fortunes, puisque de par son parcours et son expérience, il va forcément intéresser ces gens-là, et ces gens-là vont forcément voter pour lui.
Pourquoi ?
Parce qu'il a une expérience dans le monde de la finance et dans le monde de l'entreprise et de l'investissement qui est telle qu'il a montré qu'il savait faire, alors avec des plus et des moins, parce que là c'est vraiment du financier pur et non pas du social. Donc voilà, donc ça c'est clair qu'ils ont des attentes là. À l'inverse pour les petites entreprises, Là, c'est clair que c'est plus compliqué puisque la recette qu'il veut mettre en place, qu'il a mis en place pour lui-même à l'époque et encore au jour d'aujourd'hui, et qu'il veut mettre en place pour les grands groupes, va être très difficile à appliquer pour les petites entreprises. Enfin, ça sera beaucoup plus compliqué.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a d'un côté un Mitt Romney qui favoriserait les entreprises de la finance et de l'autre côté un Obama qui...
Oui, on revient. En fait, si Mitt Romney est élu, on revient. En fait, c'est les vieux démons américains reviennent en force, puisque donc les Américains et même Wall Street avaient voté massivement pour Obama à la dernière élection. Au jour d'aujourd'hui, on sait qu'ils votent massivement pour Romney. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu, ils se sont rendus compte que, en gros, là, un financier pur, un capitaliste pur à l'américaine, comme on peut le connaître et le savoir, est plus efficace pour eux pour sortir de la crise. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Et que, en gros, ils ont laissé pendant quelques années Obama faire du social, ce qu'il a fait. Enfin, il a essayé de faire un maximum et qu'en gros, ils se disent, voilà le résultat. Là, maintenant, il faut vraiment qu'on rebondisse. Ils ont quand même perdu leur triple A, etc. Donc, voilà.
J'aimerais juste rajouter quelque chose. Il y a aussi la définition d'entrepreneur. Il y a l'entrepreneur de quelqu'un qui va créer un produit, un service ou quelque chose. Romney était plutôt un entrepreneur financier. Donc, c'est de l'investissement, c'est du capital risque ou VC, comme on l'appelle comme on veut. Mais ce n'est pas du tout la même typologie d'entrepreneur. La création de valeur n'est pas la même.
Il ne crée pas d'emploi.
Est-ce qu'on peut refaire rapidement l'historique de la vie de Mitt Romney, entrepreneur?
À part Bain et le fait qu'il a été gouverneur du Massachusetts, et de ce que j'ai pu comprendre, le Massachusetts, donc, qui est un petit État, mais avec les meilleures universités au monde, plus qu'il y a Harvard, donc finance, économie, littéraire et autres, et MIT, qui est une des meilleures, si ce n'est la meilleure université d'ingénieurs au monde.
On sait pour qui votent les étudiants d'Harvard ou du MIT?
Ce serait une bonne question, je les vois ce soir. En tout cas, pour ceux qui sont en France, est-ce que j'ai le droit de dire le nom où ils vont se réunir?
Ben oui, bien sûr. Hein,
alors, c'est au Playoff, au 58 avenue Wagram. Donc voilà, ce sera là.
Alors ça c'était pour la pub. Je reviens sur Mitt Romney, l'entrepreneur. Hein, j'en démords pas. Est-ce que ces prises de position en tant que chef d'entreprise, d'ailleurs, qui lui ont valu quelques pics durant la campagne, comment on peut expliquer tout ça?
En fait, comme c'était un financier, il a été obligé d'optimiser ses investissements. Et comme tout investisseur qui a une vision mondiale, il va où elle vend, et surtout où le bénéfice est le meilleur. Donc, il a exporté énormément de choses en Chine et dans ces pays asiatiques, parce que la manœuvre est moins chère et elle est aussi compétente. Et à partir de là, le retour sur investissement financier sur le moyen long terme est là.
Alors, du coup, ce qu'on lui reproche, c'est d'avoir plus pensé entrepreneur que emploi américain et
tout
donc l'Amérique d'abord.
C'est clair que pour lui, ça a été un handicap pendant cette campagne. Ça, c'est certain que le retour de boomerang, il est revenu radicalement. Mais c'est clair qu'il a démontré dans ce qu'il a fait pendant toutes ces années qu'au niveau entrepreneur, en tout cas financier, il savait faire les choses. Donc, il était sûr et certain de ça.
Mais du coup, c'est vrai qu'on a tendance à imaginer les Américains comme très proches des valeurs entrepreneuriales. Cette question-là de faire du profit uniquement dans le but de faire du profit passe mal?
Ça dépend quel Américain. Là, je rebondis. Ça dépend. Il y a deux, comme disait Aurélien, il y a deux profils d'entrepreneurs et même d'Américains. Donc, faut bien comprendre que les entrepreneurs qui sont sur cet axe financier et de développement pour vraiment faire du gain vont forcément pencher plus vers Romney, alors qu'à l'inverse, les Américains qui luttent, on va dire de la classe moyenne, qui luttent pour s'en sortir, pour garder leur emploi ou voire même ils l'ont perdu pour certains, vont tout faire pour rester avec Obama parce qu'ils savent que la sortie est là. Car la méthode Romney, s'il est élu, va être quand même assez violente. Faut qu'on en soit conscient.
À quel niveau?
À tous les niveaux. Au niveau déjà économique, c'est certain qu'il va faire du pro-américain. Je pense même qu'il va vraiment verrouiller ses frontières pour vraiment faire fonctionner les entreprises américaines et exporter, et donc relancer l'exportation et les investissements aux États-Unis. C'est clair qu'il va être verrouillé.
Alors Aurélien Côté, je vous laisse rebondir.
Moi, ce qui me fait vraiment peur dans la manière dont il veut faire les choses vis-à-vis de l'extérieur, donc des pays extérieurs, c'est qu'effectivement, il a déjà dit qu'il mettrait un certain nombre de pays, type la Russie ou la Chine, sur une liste noire. Donc on revient quand même à la guerre froide sans mur.
Mais une guerre froide économique?
Tout à fait.
Alors concrètement, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nos entreprises françaises, une guerre froide économique entre États-Unis contre la Russie, contre la Chine, parce qu'on a d'autres géants en face.
Ça peut être intéressant pour les entreprises françaises, étant donné que ça, c'est clair qu'il ne mettra jamais de côté l'Europe, même si elle va mal, mais même ça peut même l'avantager. Mais c'est clair que pour les entreprises françaises, ça peut être un bon rebond s'il met de côté la Chine. Donc automatiquement, il va pouvoir utiliser l'Europe, les Allemands, les Français, pour pouvoir rebondir et évoluer. À l'inverse, je rejoins ce que disait Aurélien, c'est qu'au niveau économique, ça va être une guerre froide, mais il y a aussi peut-être une guerre militaire qui peut se arriver à l'horizon avec l'Iran. Parce qu'il faut savoir qu'il a quand même annoncé qu'il était vraiment très emballé pour, entre guillemets, rentrer dedans dans l'Iran, ce qui me paraît, moi, à titre personnel, très dangereux, vu l'ambiance qu'il y a dans cette partie du monde. Ce ne serait pas forcément la meilleure idée. Mais il l'a, donc faut quand même, c'est quand même assez dangereux.
Donc, bon, ça, c'est pour le côté plus géopolitique.
Tout à fait. Je
reviens sur Mitromney, qui est mormon. Donc, est-ce qu'il y a d'autres mormons entrepreneurs connus?
Je pense que la famille la plus connue et qui est très proche de la famille de Romney, c'est les Marriott, les fameux hôtels Marriott. Ce qu'on ne sait pas, c'est que en tout cas nous Français, on a du mal à penser que Marriott, finalement, quand vous allez dans un hôtel Marriott, c'est chez les Mormons. Donc oui, il y a des entrepreneurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Parce que c'est une communauté qui s'entraide énormément, où l'aide financière pour aider à se développer est là. Et c'est pour ça que Romney a si bien réussi.
Il y a une manière d'entreprendre chez les Mormons.
Oui, l'entraide.
L'entraide, mais je pense qu'elle est partout aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de communautarisme aux États-Unis. Et c'est vrai que l'entraide est là. Nous, on a l'État qui joue un rôle très social. Aux États-Unis, pour avoir vécu 5 ans aux États-Unis, j'ai pu voir qu'au niveau local, communautaire, il y a beaucoup d'aide. Vous appartenez à une église, qu'elle soit protestante ou mormone, et vous êtes aidé par les gens de la communauté.
Donc ça joue forcément dans le développement des entreprises, cette entraide.
Tout à fait. Ouais. Même dans le développement des États-Unis. Le peuple américain à cette philosophie d'entraide, de dynamisme, et c'est certain, ça aide.
C'est quoi ? C'est-à-dire que nous, ici en France, on ne sait pas s'entraider entre entreprises ?
Moi, je pense qu'avant, on savait. Oui, honnêtement, nous étions un peuple vraiment d'entraide, de droit, de liberté. Et je pense qu'avec toute l'histoire qu'on a pu avoir ces dernières années, ça s'est compliqué. Les gens se sont renfermés sur eux-mêmes, n'ont pas tellement envie d'aider les autres, parce que déjà, ils considèrent que déjà eux-mêmes, ils ont déjà du mal. Et c'est vrai que l'état d'esprit a beaucoup changé. Mais d'ailleurs, je pense qu'il n'y a pas que la France. On retrouve cet état d'esprit d'entraide avec les Allemands. Oui, voilà, si on veut donner un exemple, les Allemands s'entraident. Ce peuple aime, ou alors on peut monter plus haut, les pays nordiques, ils s'entraident.
Stéphane de Pau, je vous coupe, je vous propose à tous les deux de revenir sur le vote, qui reste d'ailleurs serré, avec quand même un avantage, semble-t-il, pour Barack Obama. Sait-on pour qui votent les entrepreneurs américains?
Alors, en fait, tout dépend d'où on est. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs un peu partout, en fonction des industries. Si effectivement on parle de la Silicon Valley, ils sont quand même très social, ils sont très bio, donc ils vont avoir tendance à voter Obama. Par contre, si on prend les industriels qui sont plutôt dans les États du Sud, que ce soit le Texas, la Géorgie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Floride, c'est des gens qui vont voter beaucoup plus Romney.
D'accord, et ça, c'est dû à leur typologie d'entreprise.
Ah oui, oui.
Typologie d'entreprise et le fait qu'elle est au niveau des États, parce que les États-Unis, ce sont plusieurs États avec des mentalités différentes. Il y a la langue qui est la même, mais vous demandez à un Américain du Nord de parler avec un Américain du Sud, c'est des gens qui peuvent ne pas se comprendre sur certains points. Parce que c'est pas la même religion, parce que c'est pas la même manière de faire, de voir
pas
les choses.
Enfin, chaque État est un pays dans le pays.
Mais c'est quoi qui fait le vote, quel que soit du coup l'endroit, le lieu ou le type d'entrepreneur, c'est plutôt le côté les questions sociales ou c'est vraiment des questions économiques? Parce que l'économie est au centre de la campagne, ils en parlent l'un comme l'autre, bon après avec des discours qui sont pas les mêmes, mais du coup est-ce que c'est là-dessus que ça joue ou c'est sur d'autres questions qui sont d'ordre plus citoyenne tout simplement?
C'est sur plusieurs questions. Il y a évidemment sur le rôle social et économique, mais il y a aussi sur le rôle, comme disait Aurélien, c'est que les États ont des idées depuis longtemps, qu'il perdure à travers les familles et qu'en gros, ça ne change pas. Le Sud est très, très axé sur Romney. donc les républicains, et le Nord est très axé sur les démocrates. Donc c'est clair que ça, tous ces points-là font que les gens votent activement. Puis c'est quand même plus simple qu'en France. Il y a deux partis, c'est quand même beaucoup plus simple. C'est quand même plus compliqué. Mmh. Donc là. Bon, il y a l'économie, il y a le social et il y a aussi les idées.
Les votes risquent d'être tellement serrés que ça va quand même être compliqué pour eux aussi.
Ah bon, je pense que pour oui. tout le monde, ça va être compliqué. Bon, ce qui peut rassurer quand même, c'est que les deux vont sur le fond dans la même direction. On est vraiment sur une direction droite, mais bon, après, il y en a un qui est plus extrême que l'autre, c'est certain. Mais sinon, ils vont dans la même direction, ce que je pense qui est une bonne chose pour l'Europe.
Je reviens sur le vote, mais alors du coup avec une question par rapport aux entrepreneurs français qui nous écoutent. Est-ce qu'on sait pour qui aimerait voter, parce qu'ils n'ont pas le droit de voter, les entrepreneurs français selon vous ?
Alors c'est intéressant parce que j'ai reçu un article d'une amie française qui est maintenant qui vit à Philadelphie et qui parlait effectivement de. Elle a été interviewée comme d'autres Français qui ont le droit de voter, parce que maintenant ils sont citoyens américains, ils sont D'accord. restés suffisamment longtemps. Ils ont voté Obama, et ils se posent la question de savoir s'ils vont pas voter Romney. Parce qu'ils ont eu l'impression que Obama aurait pu faire beaucoup plus de choses, et qu'il n'a pas pris l'opportunité à l'époque où il avait le Congrès pour lui, de pouvoir faire tout ce qu'il voulait. Donc il est possible aussi que beaucoup d'entrepreneurs français qui seraient là-bas serait dans cette situation-là.
Alors moi, à l'inverse, j'étais au téléphone encore tout à l'heure avec les États-Unis et avec un entrepreneur français qui me disait, lui, qu'il a rencontré pas mal d'entrepreneurs français depuis quelques jours et qu'il pencherait plus, alors c'est dans le sud, on est en Géorgie, qu'il pencherait plus vers Obama puisqu'ils étaient inquiets de ce que voulait mettre Romney en place, puisque ce sont des petites entreprises et que ça allait être compliqué pour eux et qu'ils avaient surtout peur qu'il fasse trop de pro-américains au détriment des entreprises étrangères, pas que françaises, installées, et qu'ils aient des inconvénients, des taxes ou des choses qui viennent se rajouter à travers ce que veut mettre Romney en place. Donc oui, non, c'est... Vous voyez, c'est Philadelphie qui est dans le nord, vous avez la Géorgie, donc Atlanta qui est dans le sud. On a ces points de vue qui divergent. Alors, c'est à l'inverse de ce qu'on vient de dire, puisque la population vote à l'inverse. Mais au niveau entrepreneur, on se rend compte que finalement, c'est pas du tout la même vision des choses au niveau des Français.
Alors, rapidement, politique fiction presque, quel serait l'avis des entrepreneurs français avec un Obama reconduit demain, dans 6 mois ?
Oh, la vie va continuer. Obama, en fait, a peu de choix devant lui s'il est reconduit. Le seul choix qu'il a, c'est de maintenir les baisses d'impôts qu'il a instaurées après l'ère Bush. Donc là, c'est le seul choix qu'il ait aujourd'hui pour relancer l'investissement. Mais après, il n'y aura pas de grandes réactions.
Aurélien Cotet.
Moi, je pense qu'il y a aussi je reviens à l'euro-dollar. Uh-huh. Il serait intéressant de voir comment l'euro-dollar va évoluer, que ce soit l'un ou l'autre qui va être élu, pour voir effectivement s'il y a une baisse de l'euro qui nous permette d'être plus proche du dollar. Et effectivement, là, ça pourra aider les entrepreneurs français qui soient de France pour les États-Unis ou français aux États-Unis.
Une question sur les mentalités. Vous connaissez l'un comme l'autre très, très bien les États-Unis, les Américains, leur manière de faire du business. Comment on fait du business avec eux ?
C'est beaucoup plus simple qu'en France.
C'est clair. C'est très très simple. Mais à l'inverse, c'est très très dur aussi, puisque le marché est très concurrentiel. Et donc, c'est simple, mais compliqué malgré tout, puisque tout a déjà été fait commercialement aux États-Unis.
Bon, eh bien, je vous propose de passer tout de suite aux questions flash. Qu'auraient pensé les hommes politiques américains du rapport Gallois selon vous ?
Ah.
Qui veut y aller ?
Du rapport quoi ?
Le rapport Gallois. Déjà, je pense qu'aux États-Unis, si vous touchez à la TVA, qui est beaucoup plus faible, puisque je vois dans l'État de Géorgie, dont je parlais tout à l'heure, est à 7%.
Change en fonction des États.
Hein, voilà, elle change en fonction des États. Mais elle est quand même, en résumé, plus faible, hormis en Californie et New York, qui sont des États particuliers. Mais sinon, elle est plus faible. Donc, je pense pas ça serait dans leur trajectoire. En tout cas, je vois mal les deux candidats aller dans cette direction-là.
Bon, je profite quand même de l'actualité pour qu'on parle rapidement du rapport Gallois. Qu'avez-vous pensé des réactions et des décisions du Premier ministre aujourd'hui ?
Pas de choc. Voilà. On attend, puisque le rapport préconisait un choc. Le choc, il peut intervenir en 2014. quand vous voyez l'augmentation de TVA qui est préconisée à partir du 1er janvier 2014, en plus, on voit l'allègement des charges, mais à travers un crédit d'impôt qui ne pourra...
20 milliards
sur 3 ans, ouais. Dont 10 milliards la première année, et après 5 milliards et 5 milliards. Mais le problème qui va se passer...
C'est pas un choc, ça.
Mais non, c'est pas un choc, non, puisqu'il n'y a rien d'efficace et de concret sur 2013. Ce que je veux dire, un entrepreneur, ce qu'il attend au jour d'aujourd'hui pour pouvoir rebondir, c'est de pouvoir avoir des baisses de charges, mais surtout immédiates. Là, c'est à travers un crédit d'impôt, il n'aura les bénéfices de ces baisses qu'en 2014. Et donc, en gros, la seule chose qui est bénéfique, c'est pour les grosses sociétés qui ont de la trésorerie, qui ont les moyens d'investir. Et s'ils investissent tout de suite, là, évidemment, ça va être efficace pour eux.
Je poursuis avec mes questions flash. Les États-Unis sont-ils encore un Eldorado pour les entrepreneurs français? Et ce sera la conclusion. Aurélien Côté.
Alors, je pense que oui et non. L'intérêt des États-Unis, c'est que c'est un pays qui a la même langue, contrairement à l'Europe, où quand un Américain vient en Europe, il doit faire en sorte de pouvoir travailler avec des langues différentes. Pour un Français qui est doué en langue et qui a quelque chose à apporter de concurrentiel, oui, ça devient un Eldorado. La preuve, nos ingénieurs s'exportent toujours aux États-Unis, que ce soit dans la Silicon Valley, mais aussi nos financiers, plus que les mathématiciens financiers.
Oui, complètement. Le mot Eldorado est mal choisi. Les États-Unis, c'est le pays où tout est possible, en mal ou en bien, mais tout est possible. Donc oui, c'est un pays où si un entrepreneur français veut réussir, il le peut. Mais il y a quand même un chiffre qui est très important, c'est qu'il n'y a que 1% des entrepreneurs français qui essayent, qui réussissent réellement. Donc ce qui fait quand même une très faible réussite sur la quantité.
Et pour finir, après le jeu des citations, le jeu des pronostics, Obama, Romney.
Moi, je dirais Obama, il a encore ses chances. Je pense qu'Obama va faire la différence.
À combien? Pas grand-chose.
Très peu. Si ça va pas jusqu'à la Cour suprême, ouais, pour les départager.
Allez, Stéphane Depau.
Pareil, Obama. De très peu, mais des derniers résultats que j'ai pu avoir en direct tout à l'heure au téléphone, c'est de très très, c'est très court, c'est très serré, mais Obama est devant.
Eh bien, la suite au prochain épisode. Je vous remercie tous les deux, Stéphane Depau, CEO d'Aromas of France, et Aurélien Côté, entre autres, mais je pourrais pas évidemment tout citer, mais fondateur de The American Clubs. Merci à vous deux. Quant à nous, chers auditeurs, donc on se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission en direct et un nouveau président américain.
Merci.
Merci à vous.